Quelqu'un a écrit, Dieu appelle des gens ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui se sentent un peu minables, ce qu'on appelle les pessimistes. Alors Dieu dit oui, tu te sens pessimiste, tu es ordinaire. Confie-toi en moi. Il y a peut-être des gens qui sont confiants en eux aujourd'hui et qui se disent j'ai appris, je sais faire. Et puis le Seigneur leur dit, tu es quelqu'un d'ordinaire. Dans la Bible, nous lisons Élie, le grand prophète Élie, du temps du roi Akab, qui était un des rois d'Israël, vraiment horrible. Le prophète Élie était un homme semblable à nous. Et quand on parcourt la Bible, on constate qu'il y a des hommes, des femmes, des personnes âgées, des moins âgées, que Dieu utilise pour ta gloire, comme un instrument à qui Dieu confie une mission. Moi, j'aime bien les histoires des hommes, des femmes de la vie. Il y a quelques années, je vous ai parlé de l'enfance de Josué. Vous connaissez Josué, le second de Moïse, le chef de l'armée d'Israël, du temps de Moïse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune, un enfant même, de Samuel. Alors, je vous demande d'ouvrir votre Bible dans le 1 Samuel. Bien sûr, on ne va pas lire tout le livre de Samuel, on prend le chapitre 3, et puis on piochera au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4. Et nous allons faire un parallèle entre ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, honore ton père et ta mère, hein. C'est le premier commandement à qui il y a une promesse. Mais nous ferons aussi un lien avec le psaume 23. Alors, prenons 1 Samuel au chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, ce n'est pas le prophète Élie dont on parlait tout à l'heure. Ici, il s'agit d'Élie, le sacrificateur. Donc, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne se coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous nous trouvons dans cette petite bourgade ou ville de Silo. Là se trouvait la tente d'assignation. C'était le temple portatif de l'époque. Le temple n'était pas encore construit, le temple de Jérusalem. Selon Josué 18.1, cette tente se trouvait à Silo. Et en cette période dont on parle, le sacrificateur Élie en était responsable. Il était secondé par ses deux fils, Ophni et Shiné. Les deux fils de Samuel, d'Élie, étaient déjà grands. Puis, un jour, arriva un tout jeune homme. Alors, c'est sa maman qui s'adresse à Élie, le prophète, et Anne, la maman de Samuel, dit au prophète, au sacrificateur Élie, « C'était pour cet enfant que je priais l'Éternel. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Prenons un peu cette histoire de Anne, la maman de Samuel. Reprenons l'histoire dans le chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, donc du côté Bethléem, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Dovu, fils de Tus, Ephrachien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville, de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à fierté de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après qu'on l'en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège, près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai vu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et que cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Voilà pourquoi Anne, maintenant, après avoir eu son fils Samuel, amène cet enfant à Silo pour, comme elle dit, le prêter à l'Éternel toute sa vie. Ainsi, à Silo, il avait 2 grands-enfants, les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, et maintenant un jeune garçon, Samuel, qui devint en quelque sorte l'enfant adoptif de Dieu parce qu'il est prêté à l'Éternel. Il avait comme tuteur Élie, le sacrificateur. C'est là, à Silo, près de la tente d'assignation, le temple de l'époque, que Samuel a grandi. C'est là qu'il a passé toute son enfance. Mais notre texte dit autant pour les enfants de Élie, autant pour Samuel. Le texte nous dit que ces enfants-là ne connaissaient point l'Éternel. Mais pour des raisons différentes. Lisons chapitre 2, verset 12. « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et si vous lisez le chapitre 2, vous voyez comment ils se comportent. Voilà les premiers. Et puis le jeune Samuel. Au chapitre 3, verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pour des raisons différentes. Si les fils de Eli étaient des pervers dans leur attitude démontrait qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, bien qu'ils aient été élevés par un père sacrificateur, or aujourd'hui on pourrait dire qu'ils étaient élevés par un pasteur, un père pasteur, et leur responsabilité, ils ont pris les responsabilités, parce qu'ils étaient selon leur lignée des sacrificateurs, mais ils se comportaient comme des pervers. Pour le jeune Élie, le jeune Samuel, il s'agit tout simplement d'une question d'âge. Il était jeune, mais surtout parce que l'Éternel ne s'est pas encore révélé à lui. Alors, cette déclaration me fait penser que dans la maison de Dieu, ici la tente d'assignation, il était normal que Dieu s'adressait à ses serviteurs d'une manière régulière. Mais nous constatons, dans le verset premier, il est noté, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette situation. Comment on pourrait le dire aujourd'hui? On pourrait dire, par exemple, que les chrétiens de cette église, prenons l'exemple de cette église, ne savaient plus écouter la voix de l'Éternel. Parce qu'ils ne lisaient pas leur Bible, par exemple. Parce qu'ils ne priaient pas. Ils n'ont pas de culte personnel. Peut-être que l'église, oh, on y va seulement de temps en temps pour faire la fête ou à une occasion, un baptême par exemple. Alors, si telle est notre attitude, nous n'entendrons plus la voix de l'Éternel. C'était un peu le cas du temps d'Élie et de ses deux fils. Mais ça va changer. Autre chose à souligner, Samuel n'était pas un enfant abandonné. Élie ne l'a pas trouvé dans un couffin près d'une poubelle ou devant sa porte. Samuel se trouvait là, à Silo, parce que Anne, sa maman, a fait un vœu et en reconnaissance et en réponse à ce vœu, elle est venue mettre son enfant à disposition dans le temple. Ça se faisait à l'époque. Et en plus, on peut lire dans le chapitre 2, versets 18 à 21, que ses parents en prenaient soin. Chapitre 2, 18 à 21, Samuel faisait le service devant l'Éternel et ses enfants étaient revêtus d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir des sacrifices. Peut-être pointe sa tenue vestimentaire. C'est la maman. Mais vous ne pensez pas qu'elle n'a pas apporté une corbeille avec un peu de fromage et des saucissons ou quelque chose. Oh, pardon, à l'époque on mangeait pas de saucisses. Mais je pense qu'ils sont venus, Elkana et Anne et Pina, parce qu'elle était aussi la femme d'Elkana, sont venus avec des provisions, avec la petite tenue apportée fabriquée par Anne, la maman. Oui, Samuel n'était pas un enfant abandonné. Il y a autre chose qu'il faudrait souligner aussi. Samuel était un enfant soumis. Il était soumis à son tuteur. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans ce chapitre 3, que chaque fois qu'il entendait son nom, même la nuit, il répondait présent et allait voir le sacrificateur Élie. C'est un enfant soumis. Il a été confié à Élie, le sacrificateur, par ses parents, et il était soumis à ses parents. Ce n'était pas le cas des enfants d'Élie, le sacrificateur. Dans le chapitre 2, verset 25, il est dit « Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Et en contraste, le jeune Samuel continue à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Nous arrivons sur un point essentiel de la vie de Samuel qui va conduire toute sa vie. Ce que j'appelle son coup double. Et le texte que nous avons lu dans Éphésiens 6 dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce commandement fait partie des dix commandements donnés par Moïse. Samuel, en obéissant à Élie et par conséquent à ses parents, obéissait aussi à Dieu. Il obéissait, il se mettait en règle par rapport au commandement donné par Dieu à Moïse. Et en se soumettant à Dieu, à son commandement, il se met au bénéfice de la promesse. Bien sûr, quand il était enfant, il ne réalisait pas cela. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il réalisait que Dieu était aux commandes de sa vie. Et à partir du moment où Dieu lui parle, il constate que Dieu avait un projet pour lui. Quand Dieu prend les rênes d'une vie, quel que soit l'âge, Dieu n'appelle pas pour rien. Dieu ne fait rien sans un objectif, sans un but. Dans le Proverbe 16, il nous est dit, au verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Rien n'échappe au projet du développement de Dieu. Bien sûr, il y a des circonstances dans la vie où notre responsabilité n'est pas engagée. C'est le cas de Samuel. Sa mère a fait un vœu et le voilà propulsé à Silo à servir dans le temple de Dieu. Ça, ce n'est pas de sa responsabilité. Mais attention, là où il se trouvait, il a fallu qu'il fasse un choix. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il aurait pu dire à sa maman et à son papa, oh, j'aimerais quand même rentrer à la maison, hein. Ou je voudrais un peu vivre avec mes petits frères, mes petites sœurs, parce que Anne a eu d'autres enfants. Non. Il a, au fur et à mesure de sa vie, réalisé que sa place était là. Il a choisi de servir Dieu. Dans Malachie, il est dit que c'est par notre choix que nous voyons, par le choix de chacun, que nous voyons la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez, à partir du moment où Dieu parle à Samuel, et vous savez pourquoi il parle à Samuel en cet instant dans le texte que nous avons lu. Il a parlé à Samuel pour montrer un plan, un projet. Mais vous savez quel projet ? Un projet de jugement et de condamnation envers la famille d'Élie. Un enfant reçoit une révélation que sa famille d'accueil va être éliminée. Quelle lourde responsabilité. Et ceci me fait penser à Abraham. Vous savez, quand Dieu a décidé de éradiquer Sodome, il est allé appeler son serviteur Abraham. Ce n'était pas un enfant comme Samuel. Et il a révélé à Abraham ce qu'il allait faire. Voyez, le rapport. Et c'est ainsi que le jeune Samuel, bien qu'à l'époque l'Éternel, la parole de l'Éternel était rare, Dieu recommence à parler à un de ses serviteurs. Et ce serviteur était un jeune enfant. Il y a des jeunes parmi nous. Ce n'est pas une question d'âge. Il appelle maintenant Samuel, et vous remarquerez à quel moment il l'appelle. La nuit, et il était couché dans le temple. Adrien nous a dit l'autre fois, que nous sommes appelés à s'asseoir dans les lieux célestes. C'est une forme, c'est l'attitude de se tenir près de Dieu. Et ici, le texte dit, il était couché dans le temple de l'Éternel. Il était symboliquement quelqu'un près de Dieu. Et parce qu'il était près de Dieu, il était capable de recevoir cette révélation qui était le jugement envers sa famille d'accueil. Continuons à regarder la vie dans la jeunesse de Samuel. Vous constaterez que l'Éternel aurait dû parler à Ophni et Phiné, les vrais sacrificateurs. Mais non. Parce que Ophni et Phiné ne se souciaient guère de leurs responsabilités. Dieu n'appelle pas n'importe qui, mais celui qui aime se tenir près de lui. L'image de le fait d'être couché dans le temple de l'Éternel. Celui qui a un cœur de serviteur parle, car son serviteur écoute. Même si ces mots ont été donnés par Élie, ce sont les mots utilisés par Samuel pour répondre à Dieu. Bien sûr, vous n'allez pas me dire que Samuel était un petit saint qui ne faisait rien de mal, qui ne faisait jamais de bêtises. Non. Samuel était un jeune comme les jeunes qui sont ici dans l'église. Il s'amusait. Il jouait pas au Pokémon Go, hein, mais il avait d'autres jeux. Il faisait des bêtises aussi. Parce que Dieu a dit pour cette fois-ci, Élie le prophète, le grand Élie le prophète, il était un homme semblable à nous. Alors les promesses, la promesse liée à l'obéissance à ses parents. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça, c'est la loi dans la Décalogue. Et dans Éphésiens, il est dit, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que tu sois heureux. Paul a fait une application. Bien sûr, dirigée par l'esprit. Alors, comparons encore les enfants d'Élie, Ophni et Chiné. Dans le chapitre 4, il y a eu deux batailles entre les Philistins et Israël. La première fois, c'était l'armée seulement qui fallait rencontrer les Philistins. Et le peuple d'Israël a été battu. Alors, les Israélites se sont dit, ouais, on a perdu parce qu'on n'a pas apporté notre Bible. Non. Ils ont dit, on a perdu parce que nous n'avons pas pris l'arche de l'Éternel avec nous. Alors ils sont rentrés à la maison. Mais l'arche de l'Éternel, qu'est-ce qui est forte? Elle est sacrifiée du matin. Les voilà que Ophni et Chiné se retrouvent dans le champ de bataille avec l'arche. La première fois, ils n'y étaient pas. Mais le Seigneur a servi cela pour leur destruction. Alors, deuxième bataille, tout le monde est content parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël. Mais l'Éternel n'était pas là. Israël était battu. Et l'arche fut prise, et Ophni et Chiné furent tués. Les conséquences de tout cela, Élie, le Dieu Élie, en apprenant que l'arche de l'Alliance a été prise, il est tombé de son siège, et s'est rompu la nuque et en était mort. L'histoire de la famille d'Élie s'arrête là. La promesse liée à l'obéissance à la loi de Dieu est devenue un jugement et une condamnation pour celui qui sait et qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous lirez le chapitre 2, vous verrez l'attitude des enfants d'Élie. Vous lirez aussi l'attitude d'Élie, le papa. Le Samuel, maintenant le jeune Samuel, son histoire est résumée par les derniers versets du chapitre 3 et même le verset du premier du chapitre 4. On lit ensemble. Verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, pas sacrificateur, prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Chapitre 4, la parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Dans Élie, la parole était rare, début du chapitre 3. Fin du chapitre 3, la parole se révélait à tout Israël par Samuel. Alors, la promesse pour Samuel, honore ton père et ta mère, est confirmée. Exode, chapitre 20, c'est le chapitre des 10 commandements, au verset 12, est lié à ce commandement, honore ton père et ta mère. Ce commandement n'est pas le premier commandement. Il n'est que le cinquième de la liste. Mais combien de vies ont été bouleversées par l'obéissance à ce commandement. Et la promesse de les bénédictions liées à ce commandement non seulement ont changé des vies, comme la vie de Samuel, mais aussi Dieu a utilisé ces vies changées pour être en bénédiction aux autres. Samuel est devenu une bénédiction pour tout le peuple. Avoir ou ne pas avoir la vie. Parlons de ces enfants qui étaient à Silo. Ne vous fait-il pas penser à l'évangile même? Par exemple, dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5, nous pouvons lire. Partir du verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie de Samuel est un témoignage pour nous. La vie de Samuel est un exemple pour nous. Alors, nous sommes appelés à réfléchir sur la place de l'obéissance aux parents. Alors, c'est vrai, il y a des mots dans notre époque qu'il ne faut pas prononcer. La soumission, l'obéissance et tout ça. J'ai failli dire un gros mot. Mais regardez ces mots, ces ordres, dans le plan de Dieu et non pas par rapport à ce que le monde comprend. Détachons-nous de la compréhension du monde. Dans notre monde, l'autorité, il faut s'en révolter. Alors que l'autorité, face à la parole de Dieu, Dieu nous demande de nous soumettre. Alors, où mettons notre cœur? Celui qui a le témoignage de Dieu, ici, par son Fils, a la vie. Celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie. Bien sûr, là, j'ouvre la promesse à tous. On ne parle pas toujours, on ne parle pas spécialement des jeunes. Nous sommes tous concernés, quel que soit notre âge. Nous avons une réponse à donner à Dieu en rapport à sa volonté. Les enfants d'Élie étaient des adultes parce qu'ils officiaient déjà dans le temple. Ils étaient des enfants par rapport à leurs parents. Samuel, lui, par rapport à son âge, il était jeune. Mais Dieu regarde son cœur. Dieu a commencé à se révéler à nouveau à Silo, par un enfant. Alors, quelle est la clé de cette histoire? La clé se trouve dans le mot obéissance. Savoir se tenir près de Dieu. Aimer la compagnie de Dieu. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, et on termine là. Verset 19. De Timothée. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec tes paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se l'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, Samuel était comme un vase d'honneur, propre à la mission que Dieu lui a confiée. Alors, notre psaume 23, que dit-il? Et notre psaume 23, que dit-il? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et Samuel a vécu toute son enfance dans la maison de l'Éternel. Alors, est-ce que nous sommes de ces gens qui aiment avoir des exemples? Voilà un exemple. Vous êtes jeune, vous êtes des ados, vous êtes plus âgés, vous êtes à la retraite comme moi. Cela nous concerne. L'exemple de Samuel. Après, on peut regarder la vie de Samuel à vivre. Mais c'est cette disposition de cœur que Dieu choisit par rapport à des spécialistes et des professionnels de religion comme les signés et les hauts signés. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est notre cœur tu veux. Alors nous t'en remercions. Apprends-nous encore à admirer ton œuvre à travers des vies que tu utilises. Merci pour l'exemple de Samuel. Sois loué. Merci pour les parents qui nous ont conduits jusque-là. Merci aussi des tuteurs que tu as mis sur notre route pour nous guider. Merci sur toi, Seigneur, de t'avoir révélé à nous de différentes manières. Amen.